carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy.
Mesdames, messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Canal Académie. La sculpture bourguignonne est surtout célèbre pour ses grands ensembles romans et pour son exceptionnel statuaire de la fin du Moyen-Âge, mais de nombreux témoignages de l'intense activité artistique que connut la région au XIIIe subsistent encore, et si certains d'entre eux sont bien connus, d'autres le sont un peu moins. Roland Recht de l'Institut de France et Denise Borlé, auteur d'un livre sur la sculpture figurée du XIIIe siècle en Bourgogne, évoquent pour nous les deux foyers artistiques majeurs qui se sont succédés en effet au XIIIe sur le territoire bourguignon, l'un autour de l'église Notre-Dame de Dijon et l'autre en plein cœur de l'Aussois. Madame, monsieur, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle, monsieur, même si nos auditeurs vous connaissent bien, que vous êtes membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, professeur au Collège de France et historien de l'art. Madame, vous êtes maître de conférence à l'Université de Strasbourg, où vous enseignez l'histoire de l'art médiéval. Et votre ouvrage, celui que j'ai cité, est issu de votre thèse de doctorat soutenue à l'Université de Bourgogne. Et c'est une étude approfondie qui pose des hypothèses importantes. Mais avant toute chose, parlons du XIIIe siècle en général en Bourgogne et plus particulièrement en Bourgogne du Nord. Monsieur, quel est le contexte de la créativité artistique au XIIIe siècle ?
La création artistique au XIIIe siècle est bien connue par les grands monuments classiques, que ce soit les cathédrales de Chartres, d'Amiens, de Reims, bien entendu. Ces monuments qui sont à la fois des chefs-d'œuvre d'architecture et de sculpture, peut-être qu'il focalise un peu trop l'attention du public. Donc il est, je crois, très important de saluer la parution d'un ouvrage qui se porte non pas sur des œuvres célèbres, non pas sur des ensembles que le public, le touriste connaît bien. La Bourgogne est connue pour l'architecture aussi, mais aussi pour la sculpture romane. Et bien sûr, Autun, Vézelay, Cluny aussi. C'est une région qui est connue pour la sculpture de la fin du Moyen-Âge, avec Sluter et cet extraordinaire développement de cette époque. C'est vrai que, à part un livre de Claude Schaeffer, je crois paru dans les années 50, sur la sculpture bourguignonne au XIVe siècle, il n'y avait rien sur le XIIIe siècle. Et on se demandait même s'il y avait de la sculpture au XIIIe siècle. Bien sûr, les historiens de l'art le savaient. Et je crois qu'il faut mettre l'accent sur le fait que l'histoire de l'art ne s'occupe pas uniquement des œuvres célèbres. Peut-être que les éditeurs d'histoire de l'art ont parfois tendance à privilégier les périodes les plus connues et les œuvres les plus célèbres, tout simplement parce qu'elles attirent du monde. Mais qu'il y a une sculpture très intéressante au cours du XIIIe siècle, en Bourgogne, en particulier dans l'Aussois, autour de Dijon et dans l'Aussois, comme le montre le livre de Denise Borlé. Donc je crois que ça, il faut le signaler. C'est cette importance de l'intérêt que l'historien de l'art porte aussi son intérêt sur des choses qui sont moins connues.
Denise Borlé, en Bourgogne, cette floraison de sculptures que vous avez un petit peu dénichée parfois, que se passait-il dans cette Bourgogne et pourquoi est-ce plutôt au nord qu'au sud de la Bourgogne ?
Alors, j'ai réussi à mettre en place, à créer une carte qui montre précisément cette double implantation entre les édifices romans et les édifices gothiques du XIIIe siècle, puisque c'est sur ce siècle que je travaillais. Et je trouve cette carte particulièrement éloquente. Précisément, les deux grands nuages de points eh bien, correspondent un à cette moitié sud et l'autre à cette moitié nord. Il y a très très peu de points qui se trouvent à l'intersection. Il y en a bien sûr quelques-uns, mais très très peu. Et cela s'explique par, à mon avis, un phénomène très simple, c'est que les territoires situés plus au sud de la Bourgogne, ce qu'on appelle la Bourgogne du Sud, eh bien, étaient déjà très largement occupés, notamment par Cluny et ses prieurés. Bon, il y a bien sûr d'autres abbayes, Saint-Martin d'Autun, Saint-Pierre de Châlons, Tournu, dans cette Bourgogne du Sud, qui avait aussi des dépendances, essentiellement localisé justement dans cette Bourgogne du Sud. On sait bien entendu que pour Cluny, c'est allé bien au-delà, mais il y a quand même beaucoup de prieurés clunisiens en Bourgogne du Sud, jusque dans le Brionnais. Et assez peu donc d'édifices romans au nord, et on voit qu'au XIIIe siècle, eh bien, ils se sont implantés plutôt là. Il y avait encore de la place là, alors ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en avait aucun au XIIe siècle, bien sûr, mais il y a quand même une nette floraison d'édifices gothiques, donc plus au nord.
Donc on peut dire que romans et gothiques physiques sont complémentaires.
En tout cas, c'est ce qui apparaît très, très clairement, mais géographiquement parlant, et s'expliquant, bien entendu, par l'implantation historique. Et
ça voudrait dire aussi qu'ils se succèdent chronologiquement. C'est ça qui est tout de même intéressant pour l'historien, c'est de penser que on a laissé des zones en blanc, si on peut dire, sur le plan artistique, et que lorsque des moyens financiers étaient de nouveau disponibles, même s'ils étaient certainement beaucoup moins nombreux et importants que ceux qui ont été déployés au XIIe siècle par toute la vague clunisienne, mais ces moyens ont été investis dans des monuments, dans l'ensemble tout de même plus modeste.
Oui, absolument.
Voilà, ça me paraît quand même important, c'est un domaine économique.
Oui, et dans une zone géographique qui n'était pas si facile que cela à conquérir, parce que extrêmement boisée, hein, tout ce nord de la Bourgogne, hein, donc qui va largement dans l'ancien diocèse de Langres, était une zone assez boisée et qui n'était pas si facile que cela à pénétrer. Et ce n'est sans doute pas non plus un hasard si les ordres monastiques plus anciens se sont installés en d'autres contrées, laissant vide cette partie nord qui, du coup, a été investie, par exemple, par les cisterciens. Bon, ce ne sont pas eux qui ont fait le plus de monuments, mais c'est quand même assez clair. L'implantation, là aussi, si on voulait la prolonger entre clunisiens et cisterciens, on s'apercevrait que ça fonctionne également entre le plus au sud et plus au nord. L'espace était déjà occupé, très largement occupé par d'autres, bien avant eux.
Donc c'est un espace qui est occupé là aussi par des abbayes bourguignonnes. Vous me parlez de Cluny au sud, mais ce sont aussi des sculptures religieuses pour un contexte d'expansion religieuse d'abbayes bourguignonnes.
D'abbayes ou d'établissements monastiques plus largement, qui n'avaient pas nécessairement le statut très précis.
En tout cas d'églises aussi.
Mais d'églises, alors soit d'autres établissements monastiques type prieuré, soit d'églises paroissiales, hein, tout simplement. Même s'il est vrai que dans ce type d'église, on n'a pas des déploiements très importants de sculptures, sauf à Notre-Dame de Dijon.
De quelles sources historiques disposiez-vous pour faire ce travail un petit peu de bénédictin ?
Ben écoutez, de sources qui sont hélas très lacunaires. Alors, s'agissant des édifices en particulier, bien évidemment, j'ai tâché d'appréhender l'histoire de la région, hein, le plus précisément possible. Et là, je dois beaucoup au doyen Richard qui a très largement travaillé sur l'histoire de cette région. Et pour les édifices eux-mêmes, il faut bien reconnaître que nous ne disposons que de très très peu de sources. Quelques mentions, quelques donations. Alors on en a notamment pour les édifices situés en Aussois, que j'ai utilisés pour justifier, renforcer une datation qui reste approximative, parce que je pense qu'on ne peut pas de toute façon aller plus loin. Mais c'est à peu près tout.
D'une façon générale, pour l'historien de l'art, la source, c'est le monument.
Oui, et comme ça a été un petit peu vandalisé pendant la Révolution française, certains des monuments dont vous parlez ont été énormément abîmés. Donc le monument n'est pas en un état parfait.
Pour Notre-Dame de Dijon, il est vrai qu'il faut mener une étude un petit peu archéologique des portails, des tympans et du monument. Alors, comme vient de le dire très justement Roland Racht, pour l'historien d'art, le document est le monument, et c'est tout à fait cette façon dont j'ai travaillé. J'ai tenu systématiquement à ne pas isoler la sculpture du monument, donc de son contexte architectural, mais au contraire de l'envisager dans le monument et de l'envisager aussi au regard des autres monuments, donc de la région, et encore bien au-delà, donc pour essayer de voir un petit peu comment cette sculpture s'intègre, s'insère dans une histoire plus générale de la sculpture gothique.
Oui, on verra les influences que vous avez su percevoir à travers tous ces monuments.
J'aurais voulu poser une question à Denise Borlée à propos des recherches que vous avez faites donc sur les monuments eux-mêmes. Quand vous étudiez l'architecture, qui est indispensable à la compréhension même de la sculpture inscrite dans ce monument, est-ce que vous avez l'impression qu'on peut établir une distinction entre la qualité, bien sûr, d'un tympan ou de pied droit lorsqu'ils sont conservés, et la petite sculpture de culots, de chapiteaux? Bon, ça, je crois que c'est assez évident. Mais est-ce que vous pouvez aller jusqu'à dire ce ne sont pas les mêmes qui ont fait ces deux choses-là? Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que, par exemple, ce serait plutôt au tailleur de pierre que serait revenu le travail du culot ou des consoles, et à un sculpteur, non pas spécialisé comme on l'entend aujourd'hui, mais quand même qui sait peu à peu spécialiser parce qu'il sait réserver généralement ce type de sculpture plus difficile à maîtriser. Qu'en pensez-vous ?
Parlons des ateliers, justement.
Oui, alors pour répondre très directement à votre question, il me semble que l'église Notre-Dame de Semur-en-Aussois peut apporter une réponse. Et il me semble justement pouvoir être en mesure de distinguer le travail de tailleur, hein, tel qu'on les appelait, tailleur d'image, donc ce qu'on appellerait aujourd'hui un sculpteur, et de tailleur de pierre. Alors, très précisément, au niveau des têtes ornant le triforium du chœur et du transept de l'église Notre-Dame de Semur en Auxois, et plus précisément encore, entre les têtes situées donc à la retombée des arcatures du triforium dans l'abside, distincte de celle située donc au même endroit, toujours à la retombée des arcatures du triforium, dans les travées droites du chœur et dans le transept. Il y a là des différences qualitatives, c'est-à-dire que effectivement, ce n'est pas la même qualité dans le rendu de la précision, dans le rendu du modelé, et il y a des différences très nettes dans la taille même de ces têtes et dans leur système de montage. Les têtes situées au niveau de l'arcature du triforium dans l'abside appartiennent en fait au bloc de l'arcature qui constitue l'arcature. D'accord. Alors que les autres situées dans les travées droites du chœur et dans le triforium sont des têtes rapportées sur une sorte de socle préparé à l'avance, très bien préparé parce qu'il y a la prolongation des chevelures par exemple, donc on ne les a pas mises n'importe où. Et elles tiennent par un joint de mortier et un tenon métallique qui était renforcé par un coulage au plomb avec un trou dans la tête qui a été systématiquement bouché mais qu'on voit très bien quand on est au-dessus.
Ce qui voudrait faire comprendre que ces belles, ces particulièrement belles têtes rapportées ont été faites à l'extérieur du chantier, ou en tout cas en bas.
En tout cas,
pas dans la masse.
Pas forcément à l'extérieur.
Pas dans la masse. Pas dans la masse. Et je le pense par les mêmes qui ont travaillé au portail situé du côté nord et sur quelques clés de voûte également qui sont donc situées au transept et dans quelques travées du collatéral sud. Là, je pense pouvoir isoler le travail de sculpteur. Organisé, je ne sais pas comment, mais j'ai utilisé le terme d'atelier, je ne sais pas s'il est bon, mais enfin, en tout cas, un groupement, une équipe de sculpteurs que l'on peut, par ce fait, vraiment, je pense, distinguer des tailleurs de pierre.
En tous les cas, ça donnait déjà deux possibilités de travail, c'est-à-dire l'une, la préparation de ces têtes de meilleure qualité, en atelier peut-être, mais en tout cas, qui pouvait se faire à n'importe quel moment de l'année, sans tenir compte des saisons, alors que la mise en place de tout l'appareil d'une construction, y compris ces sculptures intégrées dans cet appareil, ne peut se faire que dans des conditions climatiques relativement favorables. On ne travaille pas quand il fait très froid. Vous voyez, donc il y a là sans doute une organisation du chantier qui doit être considérée par rapport à ce type de production.
Et on en avait besoin pour continuer. Ouais. Donc on n'a pas pu les faire n'importe où. Et d'ailleurs, cette distinction, cette césure finalement entre abside et travée droite du chœur se manifeste également par certains détails de l'architecture. Donc c'est un tout qui montre qu'on a commencé d'une manière mais on a continué d'une autre. Alors pour quelle raison? Ça évidemment,
mais c'est certainement une influence extérieure qui est venue entre-temps. Mais
peut-être des moyens qui tout à coup sont arrivés et qui ont permis de faire mieux que ce que l'on avait prévu de faire à l'origine.
De recruter des ouvriers plus qualifiés. Oui.
Ce que j'ai pu constater aussi dans votre clip, c'est que la qualité des sculptures, je pense au culot, diffère selon la verticalité, c'est-à-dire loin du regard, on peut avoir une œuvre un petit peu moins raffinée, mais aussi horizontale, c'est-à-dire près du cœur, c'est plus joli que vers la nef.
Oui.
Vous avez toute une hiérarchie.
Oui, bon, ça c'est quelque chose d'assez connu. On embellit davantage le sanctuaire que la nef. Alors ça se voit dans les grands édifices, bon, ceux sur lesquels j'ai travaillé, mais ça se voit, je pense, encore plus nettement dans de plus petits édifices, hein, par exemple des églises paroissiales, hein, tout simplement, où l'on a, pour ainsi dire, pas de décor sculpté, ouais. Mais quand il y en a, c'est dans le chœur, ou à proximité immédiate du chœur. Et quand on en a en Bourgogne, eh bien, ce sont des culots situés à la retombée des ogives. Ça, c'est vraiment un thème décoratif qui est récurrent dans les églises du XIIIe siècle en Bourgogne et un peu partout. Alors, bien sûr, je n'ai pas pu tout traité parce qu'il y en a énormément, d'assez piètre qualité parce que bien entendu on n'a pas fait appel à des sculpteurs spécialisés pour les réaliser, pour les sculpter, et donc ce sont vraisemblablement les tailleurs de pierre là qui ont taillé ces visages souvent assez grossiers, souvent aux traits exacerbés également, bon, du type de ceux que l'on peut observer aussi sur des édifices plus importants comme la cathédrale de Reims où on a beaucoup de ces têtes. Thank you.
Denise Borlée, Notre-Dame de Dijon, construite entre les années 1220-1240, a une sculpture figurée qui va servir de modèle pour les églises de la région, ce mur sans doute à un moment donné. Mais elle-même a une influence toscane pour sa façade. Alors, toutes ces communications, qu'en pensez-vous, madame ?
J'ai trouvé que, formellement, les façades pouvaient être mises en regard les unes des autres, mais en réfléchissant au contexte, en réfléchissant au rôle aussi qu'a pu jouer Notre-Dame de Dijon, je me suis demandé si ce qui apparaissait formellement ne pouvait tout de même pas s'expliquer par une volonté justement de citer ces fameuses églises toscanes à la façade si caractéristique, hein, c'est-à-dire ces façades planes ornées d'arcatures.
Ces façades écran.
Ces façades écran, exactement, que reprend, alors je ne sais pas si le terme est exact, mais en tout cas que l'on retrouve à Notre-Dame de Dijon. Et donc, d'un côté, on peut en effet les comparer, mais en même temps, il me semble que l'on peut véritablement accorder à Notre-Dame de Dijon un rôle assez similaire, finalement, à celui qu'ont joué ces églises de Toscane dans leur ville, c'est-à-dire une fonction communale beaucoup plus importante qu'on ne l'a dit jusqu'à maintenant.
C'est une idée que je trouve extrêmement intéressante. Sur le plan simplement esthétique, si on peut dire, c'est vrai que la façade écran, c'est quelque chose d'extrêmement rare dans l'architecture de notre pays. On la trouve en Italie, en effet, mais on la trouve aussi en Angleterre.
Oui. Bon.
Alors, sous des modalités différentes, avec des structures différentes et avec une utilisation différente aussi de la sculpture. Mais votre idée, c'est-à-dire de mettre au fond en avant une relation qu'il y aurait entre une sorte d'initiative ou de fierté communale qui se manifesterait dans cette sorte d'affirmation d'une singularité, d'une originalité absolue, ça me paraît une idée extrêmement intéressante qu'il faudrait creuser. Néanmoins, il faut peut-être rappeler que c'est toute l'église Notre-Dame de Dijon qui est quelque chose d'absolument extraordinaire.
Tout à fait.
Oui, parce que l'intérieur est très aérien, alors qu'en fait, on serrait dans l'urbanisme
oui,
qui oui, entourait.
Il y a cela, mais il y a aussi le fait que le principe constructif lui-même est tellement original, bien qu'il faut qu'il applique tout ce que l'architecture gothique a peu à peu élaboré jusqu'au début du XIIIe siècle, et d'une très grande originalité, tellement originale que le système de porte-à-faux intérieur, on ne peut pas décrire ça devant un micro, mais enfin, ce système particulier a fasciné ensuite les architectes du XVIIIe siècle déjà, Soufflot, et a fasciné Viollet-le-Duc. Donc c'est un monument tout à fait particulier sur le plan architectural, et il est évidemment très regrettable qu'on n'ait pas les sculptures des tympans, qui devaient être aussi des œuvres très exceptionnelles, par leur qualité certainement.
Oui, parce que dans votre livre, il y a une photo, entre autres, qui nous montre ce qu'on a bien voulu nous laisser, c'est une petite porte avec une clé, avec le loquet de la clé, avec le verrou. Tout ça dans la pierre, donc on imagine le reste.
Et polychromé.
Et polychromé.
Encore.
Alors la sculpture bourguignonne du XIIIe, on va en parler bien sûr à ce mur et puis dans le groupe de l'Aussois. Est-ce qu'on peut déjà évoquer ses caractéristiques, son iconographie un peu, et puis quel est son style ?
Alors, comment caractériser cette sculpture ? Alors, je ne peux pas caractériser la sculpture du groupe Dijonais, bon, c'est mon appellation, hein, et la sculpture dite de l'Aussois de la même manière, parce qu'elles ne sont pas tout à fait contemporaines l'une de l'autre, une étant beaucoup plus proche de cette sculpture des années 1230 que l'on connaît bien en différents endroits, que l'on appelle parfois sculpture antiquisante, en raison justement de ses réminiscences du style antique hein, qu'elle porte en elle, et cette autre sculpture dite du groupe Aussois qui, elle, est plus proche, à mon avis, de la sculpture réalisée ici même, donc à Paris, ou dans la région en tout cas, vers le milieu du XIIIe siècle et peut-être déjà un peu avant, peut-être déjà vers 1240. Alors, en quoi est-ce différent ? Eh bien, c'est différent essentiellement si l'on regarde le traitement des drapés, qui est toujours ce que l'on regarde quand on cherche à caractériser stylistiquement une œuvre. Eh bien, cela est assez net pour la sculpture du groupe Dijonais. En fonction des quelques petits restes qui nous sont parvenus, on voit un traitement des vêtements taillés dans un tissu très fluide, aux plis fins, serrés, donc ce fameux drapé qu'on appelle aussi parfois drapé mouillé. Alors que pour cette culture, disons, du milieu du XIIIe siècle, hein, sans vouloir aller trop loin dans la précision de la datation, c'est une sculpture des personnages donc, qui sont vêtus d'habits qui paraissent beaucoup plus lourds, hein, d'étoffes plus épaisses et qui forment donc ces plis tuyautés qui caractérisent tellement justement cette sculpture des alentours du milieu du XIIIe siècle, en Bourgogne, mais pas seulement, donc dans le milieu parisien, à Reims également. Donc c'est une sculpture qui en rappelle d'autres, clairement, mais en même temps, on la reconnaît. En même temps, se caractérise par, je pense, ce qui vous a plu aussi, hein, ce que vous me disiez avant, ce caractère assez vivant,
hein, cette pittoresque,
espèce pittoresque,
narratif,
c'est le terme
décoratif
que vous avez utilisé, sans que ce soit non plus péjoratif.
Hein,
c'est une belle sculpture, mais effectivement, il y a ce petit accent qui montre bien que ce n'est pas une sculpture faite à Paris. Oui, effectivement pas.
Les visages, parce que c'est difficile de ne pas évoquer les visages. Car ils sont aussi personnables, ces visages un petit peu marqués, un peu larges, soit très lisses, soit très grimaçants, bouche serrée, petit sourire.
Alors ils répondent à des types, là aussi bien connus, des types qui sont celui du personnage juvénile, noble, ou celui du personnage masculin plus âgé, où l'on va davantage barrer la peau de rides, de traits d'expression, de rides d'expression, donc qui sont effectivement bien marqués et qui donnent un caractère forcément assez vivant à ces sculptures, à ces naturalistes, à ces reliefs ou à ces statues, s'il s'agit de statues.
Simplement, il est assez évident que à partir du moment où on s'éloigne des centres, à la fois les plus productifs et puis ceux qui sont les plus riches, parler de Paris, bon, au fur et à mesure qu'on s'éloigne des centres, les artistes ont tendance à adopter les types qu'ils ont appris à observer chez les maîtres parisiens, si on parle dans ces termes, et forcément avec une certaine outrance, c'est-à-dire qu'il y a une tendance à la caricature, ou à l'excès expressif, j'allais dire expressionniste, expressif. Et tout cela est assez normal parce qu'ils retiennent quelque chose, et ce quelque chose n'est pas la capacité de maîtriser entièrement l'invention d'une figure. Donc ce sont des détails qui leur parlent le plus rapidement. Voilà, en fait, c'est ça. Et qui parleront aussi au public, qui verra ces sculptures. Et je dirais même, pour commencer, avant le public, aux commanditaires, aux abbés, aux ecclésiastiques qui ont commandé ces œuvres.
Mais alors là, ce dont vous nous parlez, ce n'est pas du tailleur de pierre qui est un bon technicien, qui, ayant appris de nouvelles formes, les adapte avec sa créativité. C'est plutôt un tailleur de pierre qui essaye, un peu besogneux, de faire ce qu'il a gardé en mémoire.
En fait, il y a les deux, je dirais. Il y a, je pense, celui qu'on peut appeler le maître, qui a une bonne pratique, qui a une bonne maîtrise, mais qui a aussi une bonne culture, c'est-à-dire une bonne culture plastique, qui a vu des choses, alors soit directement, soit, toujours cette grande question, par le biais
des modèles,
quelle que soit leur nature. Et puis, lui, c'est quelqu'un qui sait faire, qui sait rendre. Et puis, il a une équipe. Et effectivement, parfois, on s'aperçoit que certains membres de l'équipe, dont on ne connaît pas le statut, apprenti, ouvrier, je ne sais pas, là, clairement, essayent de suivre le chemin tracé par leur maître, les schémas dispensés par leur maître. On voit vraiment les deux. Mais clairement, le maître, encore une fois, lui, dans un certain nombre de cas, on sent quand même bien qu'il maîtrise et qu'il sait transposer le geste par rapport à ce qu'il a vu. Donc ce n'est pas simplement quelqu'un qui essaye péniblement d'imiter les grands maîtres. Il y arrive, mais il y arrive sachant qu'un maître n'est pas l'autre et que l'on ne peut pas reproduire exactement. Et je trouvais que la confrontation entre une statue de Saint-Pierre de Rougemont et l'une des statues d'apôtres de la Sainte-Chapelle eh bien, est assez éclairante à cet égard. On comprend par là, me semble-t-il, la culture dont pouvait disposer cet homme qui a travaillé avec son équipe à Rougemont, qui n'est pas loin d'y arriver, mais qui ne produit pas exactement la même œuvre, a fortiori.
Alors la question de la transcription ici est très importante. C'est que ce sculpteur de Rougemont a visiblement vu des sculptures, sans doute celles de la Sainte-Chapelle, ça me paraît assez convaincant ce que vous avez proposé là. Alors le sculpteur de la Sainte-Chapelle est, je pense, un génie dans l'acception la plus noble du terme, c'est qu'il est un inventeur, un créateur de formes. Il a des modèles, évidemment, tout le monde a des modèles au Moyen-Âge, mais aujourd'hui aussi d'ailleurs, mais qui a créé quelque chose d'absolument extraordinaire. Les sculpteurs de la Sainte-Chapelle sont des chefs-d'œuvre absolus. Le sculpteur de Rougemont, on le comprend avec cet arrière-plan. Et ce qu'il arrive à faire est pas mal quand même, par rapport à ce modèle. Mais voyez la différence de taille qu'il y a entre ce qui sert de modèle, ce qui peut être considéré sans doute comme des œuvres que les sculpteurs sont allés voir presque en pèlerinage, et puis des œuvres qui sont produites ensuite dans un contexte absolument différent. Mais jamais un tailleur de pierre n'aurait su, oser ou été chargé de faire une telle chose. Ça, c'est forcément quelqu'un qui a déjà une pratique de la sculpture.
Il faut dire que la richesse des commanditaires devait aussi jouer pour savoir à qui on s'adressait. Avant toute chose, parlons un petit peu de cette localisation. Donnez-nous des noms de ces groupes ossoirs. Rougemont, puis...
Rougemont, alors ce mur en ossoir, c'est sans doute de là dont les choses sont parties. Bon, ce mur en ossoir, Saint-Thibault en ossoir, Rougemont. Alors, Bierry-les-Belles-Fontaine, j'y suis attachée, bien qu'il s'agisse d'un tout simple petit tympan, mais qui était une belle surprise au détour d'une de ses pérégrinations en Bourgogne. Vézelay, alors non pas le Vézelay auquel tout le monde pense.
Pas le Vézelay roman, mais le pignon gothique.
Mais le pignon gothique, tout à fait. Et puis, alors quelques statues provenant vraisemblablement de Chablis. Simplement, là, nous n'avons plus aucun contexte. Nous ne savons absolument pas d'où viennent ces statues. Il y en a une qui est encore dans l'église, mais on n'a pas de portail. On ne sait pas exactement d'où elle sort. Et puis, un évêque qui est maintenant au Cloisters, donc aux États-Unis, qui viendrait peut-être également de Chablis. Mais voilà, là encore, la question se pose. En tout cas, cela veut dire qu'il y a eu au moins encore quelque part un portail d'où viennent ces statues, parce que ce sont vraisemblablement là aussi des statues provenant de portails, des ébrasements d'un portail. Et puis un devant d'autel qui est conservé aujourd'hui au musée des Beaux-Arts de Dijon, donc qui bien sûr ne se trouve pas en ossoir, mais qui a pu être taillé en ossoir ou qui a été vraisemblablement taillé par les mêmes que ceux qui ont travaillé en ossoir.
Le coup de ciseau, disons ça comme vous rappelle.
Ça. Oui, le style est exactement le même. J'ai pu mettre en place des parallèles très précis, comparer point par point certains visages avec d'autres encore en place en ossoir, et il n'y a aucun doute là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est la question qui se pose à partir de là. Effectivement, ce relief provient vraisemblablement de la chapelle ducale. J'ai pu l'amener toute une enquête historique qui m'a amené à conclure cette origine hautement probable. Donc à partir de là, la question se pose. Si cette pièce provient de la chapelle ducale, cela voudrait dire que sans doute le duc, ou en tout cas un grand de ce moment-là, a passé commande à cet atelier, à cette équipe travaillant en ossoir. Ce qui veut dire qu'à Dijon, vers le milieu du XIIIe siècle, et effectivement, aucune œuvre ne l'atteste, eh bien, à Dijon, à ce moment-là, il n'y a plus d'atelier de sculpture.
Oui, c'est donc ce que vous disiez. Il y a eu un ralentissement, presque même un vide, à la fin du XIIIe siècle. À partir des années 60-70, à Dijon, il y a eu un vide.
Même avant, je pense. Disons que l'activité semble s'être transposée et passée de la capitale ducale, où des artisans se sont installés pendant un certain nombre de décennies pour travailler à l'église Notre-Dame, en effet, à la Sainte-Chapelle aussi, parce qu'on l'oublie parce qu'elle n'existe plus, mais c'était un autre chantier qui a été un peu laborieusement mené, parce qu'effectivement, le chantier a duré assez longtemps dans le temps, le chantier de la chapelle ducale. Mais ensuite, on a effectivement l'impression qu'il n'y avait plus de commandes particulières à Dijon. En revanche, quelques décennies plus tard, ou même 10 ou 20 ans plus tard, eh bien, il y en a eu d'assez nombreuses émanant des établissements monastiques situés dans l'Aussois.
Oui, donc on voit bien l'importance de Paris, et comme vous disiez, monsieur, de la construction de la Sainte-Chapelle de Paris, parce que c'est Saint-Louis qui l'a fait construire, cette chapelle. Donc on est en plein dans les moments importants. Est un monument charnière pour l'iconographie, pour pour la chronologie, pour la géographie.
C'est en tout cas ce qui est apparu. Au travers de ce que j'ai pu voir, je ne le savais pas, hein. Ce n'était marqué nulle part.
Ce n'était pas un a priori.
Ce n'était pas un a priori du tout, c'est ce qui est apparu, puisqu'en effet, il y a des liens entre Notre-Dame de Dijon et Notre-Dame de Semur, des liens stylistiques, des liens plastiques, clairs, aussi au niveau de l'architecture. Et puis, ce qui se passe à Semur en Aussois est très intéressant, c'est que à un moment très particulier du chantier, c'est-à-dire exactement au niveau du transept, il y a un changement de partie. Et ça se voit, par exemple, au niveau du portail du bras nord du transept, entre un côté et l'autre, entre l'ébrasement gauche et l'ébrasement droit, qui ne sont pas les mêmes. Alors ça ne se voit pas comme cela, mais quand on regarde très précisément, quand on relève le profil des bases des colonnettes, par exemple, eh bien on voit que ce n'est plus la même chose. Et si, du côté gauche, les profils des bases sont bien les mêmes qu'à Notre-Dame de Dijon, ce n'est plus le cas pour le côté droit. Donc il y a des indices comme ça qui montrent qu'il se passe quelque chose à ce moment-là, et c'est vraisemblablement un changement de partie, l'arrivée d'une autre équipe qui va modifier le projet d'origine. Et d'ailleurs, la nef ne présente pas une élévation identique à celle du chœur et du transept. Donc il se passe quelque chose à ce moment-là qui se met en place. C'est ce fameux atelier ou cette fameuse équipe qui a travaillé dans l'Aussois qui apparaît là. Pour la première fois, je n'en sais rien. Ça paraît probable, mais finalement, je ne peux pas l'affirmer plus que cela, et qui, en tout cas, va travailler dans d'autres établissements géographiquement proches.
Alors ça, c'est évidemment très intéressant, parce qu'on a le sentiment, à nous écouter d'une façon générale, historiens de l'art, que les monuments ont été faits pour les historiens de l'art. Quand on vous écoute, on se dit, c'est magnifique, à gauche, à droite, c'est pas pareil. Bon. Alors, qui a pu voir cela en dehors de vous? Je pense que le commanditaire l'a vu. Et non seulement il l'a vu, mais il l'a accepté. Et ça, c'est quand même quelque chose de très intéressant, de penser que des ruptures aussi brutales sur un même portail, entre la gauche et la droite, déjà pour des raisons constructives, c'est aberrant, parce qu'on élève les choses horizontalement.
Alors, ce n'est pas fondamentalement différent,
oui,
mais dans le détail, ça l'est.
Dans le détail, voilà. Ça veut dire que, normalement, sur un chantier, on prépare une duration, tous les éléments, bases, etc., tout ça est quand même préparé sur une assez longue distance, dans le temps. Et que, brusquement, il y a cette rupture, et qu'on n'essaye pas de la cacher ou qu'on n'essaye pas d'y remédier, ça, c'est très intéressant, à la fois pour la mentalité du Moyen-Âge, et je trouve aussi pour la façon dont pouvait se concevoir le travail esthétique, qui ne répond absolument pas aux critères modernes que nous aurions, même dans une réflexion. Même Viollet-le-Duc n'aurait jamais raisonné comme ça.
Complètement. Il y a un très bel autre exemple en Aussois, justement, c'est le portail de Saint-Thibault en Aussois,
ah oui,
qui est très curieux. Très longuement interrogée pour essayer de comprendre ce bricolage, parce que je n'ai pas d'autre terme pour le caractériser.
Avec les colonnettes de chaque côté des statues, oui, potentielles.
Oui, mais surtout, un bricolage...
C'est très mal fait, quoi.
C'est très mal fait. Il s'est passé quelque chose. Bon, j'ai émis une hypothèse à ce sujet, mais qui est à l'origine, quand même, de remplissage de petits moellons pour rattraper une courbe qui n'est suit pas celle prévue à l'origine. On a recoupé le bloc du tympan pour qu'il entre dans un trou d'une nouvelle forme et de nouvelles dimensions. Ça rejoint tout à fait ce que vous avez dit précédemment. Et ça n'avait pas l'air de choquer. Cela dit, ça n'a choqué personne non plus jusqu'à maintenant.
Oui, les historiens de l'art non plus. Oui, non. C'est ça qui est rassurant aussi. Mais vous avez un aspect de la question tout à fait identique dans la ville où vous travaillez actuellement, c'est-à-dire à Strasbourg,
oui,
au portail sud.
Tout à fait.
Même bouchage bizarre.
Oui. Et même ici, au portail central de la façade occidentale.
Absolument.
Mm-hmm. Avant que nous nous séparions, j'aurais voulu que vous nous parliez du fameux tympan des bleds de ce mur, parce qu'on a parlé de la statuaire intérieure, de toutes ces figures, mais pas de l'histoire de saint Thomas. Alors, car c'est saint Thomas qui est représenté,
oui,
ce qui est assez étonnant, parce que d'habitude, c'est des iconographies en rapport avec la Vierge.
Alors oui, on a ce thème marial fréquemment illustré sur les portails bourguignons, que ce soit à Notre-Dame de Dijon ou en Aussois, et quelques portails à iconographie et géographique, dont justement le tympan du portail des blés, dit des blés, donc situé au bras nord du transept de ce mur en Aussois. Alors, une historienne de l'art allemande s'est intéressée à l'iconographie de saint Thomas. Elle a bien entendu parlé de ce mur en Aussois, mais n'a pas trouvé d'accroche, si je puis dire, historique à cette iconographie. Y avait-il là un pèlerinage. Pourquoi Saint Thomas à cet endroit? On ne sait pas. Tout ce que l'on sait, c'est qu'un vitrail, je crois, du cœur de Notre-Dame de Semur, présentait également cette histoire de Saint Thomas. Bon, a fortiori, dans un cycle moins développé qu'au tympan, mais présentait également ce saint.
Il y a aussi Saint André, qui peut être votre fameux devant d'hôtel que vous aimez tant,
oui.
qui est au musée de Dijon.
Oui, qui est
et Saint-André, c'est pas très fréquent non plus.
Alors,
quoi qu'en Bourgogne, c'était le Saint-Patron, mais plus tard.
Oui. Plus tard, oui. Effectivement. Mais en regardant d'un petit peu plus près l'histoire de la chapelle du Cal, on trouve mention d'un hôtel consacré à Saint-André. Donc bon, c'est peut-être la raison, et c'est peut-être de là que vient ce devant d'hôtel, justement de cette chapelle dédiée à ce saint.
Eh bien, espérons que vous fassiez encore des découvertes, comme le petit visage de l'église de Vergy, par exemple, qui vous a fait penser que le groupe Aussois venait même jusque dans la côte bourguignonne.
Oui. Alors, ce n'est pas moi qui ai découvert cette tête. Elle a été découverte bien après la soutenance de Matas, donc j'ai pu l'intégrer à l'ouvrage. Elle a été découverte lors de fouilles archéologiques menées sur le site de Vergy, ce qui me fait rêver. Et j'espère que l'on pourra y découvrir d'autres pièces. En tout cas, simplement, cette petite tête montre qu'il s'agissait d'un foyer particulièrement actif, qui a eu des commanditaires assez nombreux, sans doute avec une activité sans doute relayée par une certaine émulation entre ces centres. Hein. J'imagine que bien il y a un foyer, on fait là quelque chose à Saint-Thibault, et bien on veut faire aussi à Rougemont. Mais ce qui est intéressant, c'est que si c'est vraisemblablement la même équipe, alors j'entends au sens large, hein, peut-être était-ce deux ou trois d'un côté et deux de l'autre, et pas nécessairement les mêmes, si c'est la même équipe, ce que l'on observe entre tous ces monuments, c'est que dans le même temps, tous les portails ne sont pas identiques, loin de là. Ils n'ont pas tous la même structure.
Ils ont tous leur originalité.
Ils ont tous leur originalité et parfois même une qualité propre. Ce qui montre aussi que les membres de l'équipe, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'étaient vraisemblablement pas formés exactement de la même manière et pas d'une même habileté.
Dans votre livre, vous dites aussi que l'influence de Reims n'est peut-être pas si évidente que ça pour la région bourguignonne, car c'était ce que l'on disait auparavant, et maintenant vous pensez que l'influence parisienne est plus marquante.
Bon, là encore une fois, je ne peux pas répondre catégoriquement. C'est vrai que c'était beaucoup l'idée de Willibald Sauerländer dans son ouvrage des années de 1970, paru en France en 1972. C'était aussi l'idée de son étudiante, qui avait repris un peu cette étude des sculptures en Bourgogne. Il me semble que ce n'est pas si évident que cela. Et sans pouvoir non plus dire qu'il n'y a eu aucun lien entre Reims et la Bourgogne, parce que ça, je ne peux évidemment pas l'affirmer non plus. Simplement, ce qui paraît quand même clair, c'est que géographiquement parlant, l'Aussois est quand même très proche de Paris. Donc, ça paraît quand même assez plausible et assez logique. Et une autre chose qui est apparue, notamment par le biais de la cartographie, c'est que lorsque les points ont été posés sur la carte, les points correspondants aux églises du XIIIe siècle ou en partie du XIIIe siècle, eh bien, ces points se focalisent essentiellement sur l'axe Seine-Yonne, et puis Armançon, Serein, etc., donc pour se diffuser dans l'Aussois. Donc là, je me dis que ce n'est sans doute quand même pas le fruit du hasard.
Donc Roland Recht, l'ouvrage de Denise Borlée apporte des hypothèses qui sont évidemment encore à l'étude, encore pour longtemps.
Alors, des hypothèses sont toujours des hypothèses et restent longtemps des hypothèses jusqu'au jour où soit l'auteur, c'est-à-dire Denise Borlée, soit d'autres auteurs les confirment ou les infirment. Mais je crois que l'important, en effet, dans le domaine qui est le nôtre, l'histoire de l'art, c'est de poser des questions et de poser des questions judicieuses. Et je trouve que votre livre est plein de questions judicieuses avec des propositions de réponses toujours très, très prudentes, comme vous l'avez été d'ailleurs aujourd'hui. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que cela montre bien que vous avez défriché un terrain, vous avez essayé de voir clair dans ces productions artistiques, de nous montrer en quoi certains ensembles vous rappellent d'autres, peuvent être rapprochés, au contraire, doivent être signalés avec une singularité que, pour le moment, du moins, vous n'arrivez pas à expliquer. Donc, je crois que tout ce travail de défrichage, de constitution du corpus, d'analyse du corpus, est évidemment fait d'une manière tout à fait remarquable. Je voudrais insister peut-être sur un point sur lequel nous n'avons pas insisté, c'est sur l'aspect géographie stylistique ou géographie artistique, parce que c'est quelque chose qui est peu pratiqué en France. C'est une tradition qui est plutôt d'origine italienne et d'origine germanique, mais qui n'a pas été beaucoup pratiquée chez nous. Et un des points forts de votre livre, c'est la cartographie, en effet. C'est de mettre en carte, dans des cartes d'ailleurs remarquables, tout ce que vous venez de nous dire.
Une géographie artistique.
Une géographie artistique et donc une spatialisation de problèmes artistiques, conceptuels, que vous avez par ailleurs étudiés dans le livre. Mais le fait de les voir ainsi formalisés, ça apporte énormément, je pense, à la fois à l'historien de l'art, évidemment, mais encore, il ne soit pas trop habitué à regarder des cartes, mais surtout à l'historien et au géographe. Ça me paraît tout à fait intéressant, même au géographe, qui peut, par sa connaissance peut-être du terrain au plan géologique, tirer là des conclusions qui peuvent être extrêmement intéressantes.
Merci beaucoup. Je pense au plan géologique, c'est du calcaire.
Oui.
Calcaire un peu poreux.
Oolithique, oui.
Oui, oolithique. Oui. Donc c'est le même calcaire. Il y a une couche identique à Dijon et dans l'Aussois.
Hélas. Hélas, parce que justement, pour le devant d'hôtel, je me suis posé la question de la pierre en me disant peut-être cette question permettra-t-elle de répondre à la question donc, de l'origine de la pierre et donc du lieu où cette pièce a pu être fabriquée. J'avais donc fait appel à un géologue dijonnais, Pierre Rat, qui est venu et qui donc, n'a pas fait de prélèvement sur le devant d'hôtel, mais qui, de visu en tout cas, m'a indiqué que ce type de calcaire se retrouvait aussi bien dans la région de Dijon qu'en Aussois.
Donc vous allez devoir poursuivre votre travail d'investigation. Madame, monsieur, merci de votre visite à Canal Académie. Au revoir. Et madame, je précise de nouveau votre ouvrage, La sculpture figurée au XIIIe siècle en Bourgogne, paru aux presses universitaires de Strasbourg en 2012. Merci beaucoup, monsieur. Merci, madame.
Merci à vous.
Merci.